d'entrée dans le dispositif, tu peux aussi laisser tes affaires à l'extérieur, là sur les chaises, si tu veux, et de t'installer où tu souhaites. Et puis on va poursuivre cet échange. Est-ce que tu veux boire quelque chose?
Moi ça va.
Il y a du gingembre frais, du jus de gingembre. Sinon, il y a du thé. Moi, par exemple, je me fais un thé.
Mais si t'en fais rien,
ouais. Ça, je vais faire chauffer l'eau. Installe-toi, vraiment.
Et t'as monté tout ça toute seule?
Non, je travaille avec une scénographe qui elle-même travaille avec quelqu'un qui donc la scénographe a conceptualisé la scénographie qui n'est pas encore terminée en cours de réalisation. Là, dans les parties vides, tu auras des rideaux. Okay. Et puis, il y aura aussi un toit et il y aura aussi un sol. Parce que dans l'espace public, je ne tiens pas avec mon lit par terre comme ça. Tu vois, je veux le poser sur une surface propre.
Normal.
Pour pouvoir
mieux accueillir les gens.
Exactement. Là, on est dans la version minimaliste.
Mais à terme, tu as déjà plus ou moins une idée de quel va être le résultat final ou c'est plutôt recherche pour moi?
Tu veux dire résultat plastique ou dans les conversations?
Quel est l'aboutissement que tu espères avoir à la fin de toutes tes rencontres? Est-ce qu'il y a un aboutissement ou c'est juste une recherche perpétuelle en fait?
Je crois que ça pourrait l'être. Ouais. Ça pourrait vraiment être une recherche de toute une vie. mais c'est quand même pris dans un cadre, c'est-à-dire que c'est l'idée d'échanger entre personnes racisées à partir d'un carnet de rencontres que j'ai conçu et de vraiment créer un espace et du temps aussi, pour les personnes racisées pour se déposer quoi. Alors après, oui, c'est pris dans des conditions particulières parce que je suis programmée dans plusieurs festivals bientôt. Moi, ce qui compte, c'est que ça se déroule dans l'espace public. Mm-hmm. Et si c'est pas dans l'espace public, c'est dans des lieux transitoires, comme je le disais là précédemment. Dans l'espace public parce qu'il y a un accès gratuit, parce qu'on a une diversité des publics, parce que j'aimerais toucher un public intergénérationnel, mais aussi parce que pour moi c'est très très important de proposer quelque chose qui est radical politiquement. Mm-hmm. C'est-à-dire que l'espace déjà, le plastique, il est signifiant puisque aucune personne blanche ne peut entrer dans cet espace.
J'ai vu ça sur ton Instagram, ouais, qui s'est mis interdit aux personnes blanches et je me suis dit, ouais, c'est assez. Ouais, c'est radical en fait, et je trouve que c'est trop cool.
Je pense qu'on a besoin de cette radicalité-là, aujourd'hui.
Il faut qu'on reprenne un peu notre espace
de narration.
D'une autre, quoi, ouais.
De pouvoir se raconter, en fait. Et même si on n'est pas d'accord, tu vois, de faire entendre la pluralité des voix, des discours. Montrer qu'en fait il y a plusieurs communautés, il n'y a pas une seule communauté racisée, qui a des discours et des luttes qui sont spécifiques, par exemple Black Lives Matter. Il y a, pour moi, c'est très très important de pouvoir montrer la singularité de chacun, chacune, et de laisser à une personne la joie et la possibilité de se définir, de se déterminer. On ne se définit pas forcément, toi et moi, de la même manière, juste parce qu'on est racisé ou qu'on est adopté, toutes les deux. Mm-hmm. Là encore, même si l'adoption transnationale, c'est quelque chose que je trouve important à politiser, voilà, on va voir ce qu'on va échanger toutes les deux, tu vois, mais aussi, pour la raison pour laquelle je crée ça, ce dispositif, c'est pour commencer une forme de réparation, quoi. Mm-hmm. De reconnaissance de l'autre, de pouvoir écouter, en fait. C'est ça, le dispositif, c'est laissons parler les personnes racisées et écoutons. Moi, je suis là, j'écoute énormément et en fait, je propose aux spectateurs qui sont en dehors. L'idée, c'est qu'il y ait de la déambulation. Mm-hmm. Ça, l'espace public, c'est choisi parce que tu vois, tu vas au métro, hop, près de la place Mumba, tu vois, par exemple, à Bourgogne. Tu veux aller chercher un sandwich, une salade, et en fait, tu as une pause d'une heure. Et ben, pourquoi pas se poser ici, à côté, et écouter via des casques ou des QR codes, on verra comment on fera. Mais, parce que l'idée, c'est de pouvoir être amplifié aussi, donc la personne invitée, comme moi. Mm-hmm. De choisir si tu as envie d'être amplifié. Bien, excuse-moi, je dois boire. Tu...
Non, ce que je voulais dire, c'est que moi, ça me rassure que tu dises que le but principal, c'est écouter, parce qu'avant de venir ici, je t'avoue, j'avais un peu peur de quelle contribution je vais pouvoir apporter, quel discours est-ce qu'elle attend, dans quelle direction est-ce qu'elle souhaite que ça aille. Et
Alors, j'ai pas de direction particulière, si je peux te rassurer à cet endroit-là. Même si je vais t'emmener effectivement dans des thématiques qui me sont chères, maintenant c'est toi qui peux me dire aussi stop, je n'ai pas envie de parler de telle thématique.
Par exemple, là, est-ce que il y a quelque chose que tu n'as pas du tout envie d'aborder?
Pas que ça me vienne directement.
En tout cas, au fur et à mesure quand, de la rencontre, si tu ne veux pas aborder quelque chose, tu me le dis. Okay. Il y a quelque chose aussi que je suis en train de tester. Là, tu vois, le micro est déjà allumé. Mais ma question, c'est est-ce que tu veux bien être enregistré?
Oui.
T'as le droit de refuser, hein, vraiment.
Non, je...
Oui. Ok, super.
Pas de problème.
Et la suite, on verra après. Je te raconterai au fur et à mesure. Voilà, surtout n'hésite pas à te servir. Les petits biscuits sont pour toi.
Merci pour le
temps. Tu veux une petite serviette aussi, peut-être sinon il y a des mouchoirs.
Non, c'est ici. Bon, ouais, c'est très bien.
Voilà. Et si tu as besoin d'un petit coussin, serre-toi, il y a ce qu'il faut.
Je vois que tu as retiré tes chaussures, du coup, je vais me permettre.
Oui, moi en fait, j'adore. C'est pas que j'aime enlever mes chaussures sur Alice, c'est que je ne supporte pas de voir des chaussures sur Alice. C'est plutôt ça.
Mais du coup, vu qu'on est censé être sur le lit, il vaut mieux que je retire mes chaussures.
Oui. Voilà. Tu fais comme tu le sais. Mais je n'attends rien de spécial. Tu le saches. Pour moi, ce qui compte, c'est de te rencontrer.
Ok.
C'est bon. Alors. Comment tu dors la nuit?
En ce moment, un peu moins. J'ai un cycle de sommeil un peu déréglé à cause du fait que déjà qu'à la base, je travaille dans l'horeca, donc je m'endors très tard et je me lève très tard en général. Et puis avec le confinement, le fait de ne pas avoir d'horaire, ça fait qu'on n'a pas d'heure pour aller se coucher, on n'a pas d'heure pour se lever, et donc c'est un peu bizarre. Parce que du coup, je dors seulement au moment où je suis fatiguée et pas spécialement au moment où j'ai envie de vraiment dormir. Et puis je passe pas beaucoup de temps dans mon lit en ce moment parce que je suis toujours chez mon copain et donc c'est vrai que quand tu m'as parlé de l'objet lit et de comment, quelle relation j'avais avec mon lit, je me suis dit bah, en fait ça fait combien de temps que j'ai pas dormi dans mon lit à moi et ça fait super longtemps du coup ouais c'est un peu, j'ai peut-être pas des des choses à dire qui soient hyper récentes sur mon lit. Mais c'est clair que j'ai une relation avec lui dans le sens où il me manque, clairement.
Est-ce que c'est un endroit dans lequel tu te sens en sécurité ?
C'est un endroit dans lequel je me sens en sécurité et bizarrement, c'est un endroit dans lequel que je suis encline à sacrifier pour aller ailleurs, en fait. Je vais, si l'occasion se présente de dormir ailleurs que dans mon lit, je vais plutôt aller dans un autre lit, alors que je sais que je suis mieux dans le mien. C'est juste que c'est un endroit où je me sens en sécurité et j'ai envie que ce soit mon endroit à moi, qui reste uniquement à moi.
Seule.
Voilà. Et donc inviter des personnes dans mon lit, par exemple, c'est quelque chose que j'ai beaucoup moins tendance à faire que l'inverse.
Et tu te sens à l'aise et en sécurité quand même dans le lit de quelqu'un d'autre ?
Ça dépend des personnes, évidemment, mais... que je me sente à l'aise dans une certaine mesure, oui, mais je ne me sens pas chez moi, ouais, forcément. C'est pas mon lit. Et là, ça fait plus d'un an que je suis avec mon copain et qu'on a chacun nos appartements et que la plupart du temps, c'est moi qui dors chez lui. Et ça a déjà créé des disputes, d'ailleurs. Parce que je dis, ah, mais moi, je veux retourner dans mon lit. Et lui qui me dit, mais d'un côté, tu ne m'y as jamais invité. Donc, c'était un peu spécial. Comme dispute, parce que, enfin, c'était pas vraiment une dispute, mais comme conversation, parce qu'on est censé être partenaires, on est ensemble depuis un an et demi, non, un peu moins d'un an et demi, mais que moi, naturellement, je l'ai jamais invité dans mon lit, ça, c'était bizarre, ouais. Et que moi, je me sente obligée d'aller dans le sien, parce que voilà, elle est mieux et puis parce que je veux garder mon lit pour moi toute seule. C'est je sais pas trop où je vais avec ça, mais c'est juste une observation, en fait. J'ai pas de conclusion sur ce comportement là, mais c'est juste une observation que
tu as choisi ton lit.
Oui. Mais en fait, c'est au-delà de mon lit, c'est tout mon appartement que je considère comme une crypte. Parce que tout ce qui est dans mon appartement, je l'ai choisi, en fait. Je me suis débarrassée à un moment donné, quand j'ai commencé à travailler, à avoir des revenus, je me suis débarrassée de tout ce qui était là et que j'avais acheté pour remplir un rôle pratique, pour remplacer tous les objets que j'avais par des choses que j'aimais bien, y compris mon lit, et y compris la literie et les coussins.
Tu peux me décrire un peu ton lit ?
J'ai une obsession pour les coussins. Plus il y a de coussins dessus, plus c'est... Moi, je trouve ça très classe, les scènes dans les films où ils se disputent en jetant les coussins à terre. Pour moi, c'est les life goals, quoi. Je trouve ça vraiment classe. Et vraiment accueillant aussi, qu'il y ait beaucoup d'oreillers, parce que suivant de la difficulté de ta journée ou de ton humeur, t'as peut-être envie d'un truc qui est vachement mou pour reposer ta tête ou quelque chose qui va te supporter. Avoir le choix parmi beaucoup de coussins, ça aide.
Est-ce que tu peux me parler des couleurs sur ton lit ?
Je préfère les tons chauds, les tons orange, rosé. Puis j'aime bien avoir toujours un plaid sur mon lit qui est complètement d'une couleur qui contraste avec le reste, en fait, donc bleu en général. Et ouais, j'ai une couverture qui a été tricotée à la main par ma belle-mère. Ouais, je trouve que les couvertures, c'est très très personnel, en fait. Maintenant que j'en parle, c'est très très personnel.
Tu partages pas ta couverture ?
Non, je partage pas mon oreiller, mon côté du lit. J'ai toujours eu mon côté du lit. Parce que même quand je vais dans le lit des autres, c'est toujours moi qui choisis mon côté. Je me fais toujours en sorte d'aller dans le lit en première pour pouvoir choisir.
Et tu choisis quel côté en fonction de quels critères ?
En général, je choisis le côté, pas parce que j'y vois une signification particulière, mais par habitude, je choisis le côté qui est près de la porte en général.
Est-ce que c'est parce que tu as besoin de pouvoir partir vite ?
Y a un peu ça, ouais, de pas partir vite, mais partir en silence. Tu vois, faire le plus court trajet possible au cas où je devrais partir. Ou me lever pour aller aux toilettes. Hein, quand je dis partir, ne jamais déranger en sortant du lit, en fait. Déranger le moins possible.
Et est-ce que tu choisis le même côté quand tu dors chez toi?
Oui. Ouais, c'est et même quand je dors toute seule dans mon lit, je reste toujours du même côté, quoi. L'autre côté du lit n'est jamais dérangé, il n'est jamais défait, les coussins sont toujours à la même place.
Tu n'as pas le sommeil agité?
Non. Non, je dors un peu comme une morte, en fait. C'est bizarre à dire, mais je dors un peu sur le dos, comme ça, et les mains croisées sur mon corps.
Et tu te réveilles dans la même position?
Quand je dors toute seule, ouais. Quand il y a quelqu'un d'autre à côté de moi, ou qui ronge, ou qui bouge, forcément je vais bouger. Mais quand je suis toute seule, ouais, je me réveille dans la même position que ce que je me sens.
Est-ce que tu as des rituels le matin, en te réveillant?
J'ai pas de rituel en particulier, si ce n'est que j'aime bien traîner au lit. Je préfère mettre mon alarme plus tôt pour pouvoir me donner, même quand je travaille, l'opportunité de passer 10-15 minutes dans mon lit à rien faire, mais en étant réveillée. Et écouter de la musique aussi. Ça, c'est un truc que je fais dans mon lit depuis des années, en fait, depuis que j'ai eu l'âge d'avoir un MP3 ou un baladeur. C'était de m'endormir systématiquement avec de la musique et de me réveiller systématiquement avec de la musique. Maintenant que je dors en couple, je le fais beaucoup moins, mais quand je suis toute seule, je le fais automatiquement.
Est-ce que tu as froid, chaud?
Non, je suis ni chaud ni froid.
Ouais, c'est pas au niveau de la température, ouais. Parce qu'il fait assez frais ici.
Non, c'est bon.
Tu me dis, si jamais il y a ce petit plaid qui n'a pas été beaucoup utilisé, et donc tu peux l'utiliser si tu le souhaites.
Non, ça va. Je sais pas si je parle d'une manière claire. J'ai l'impression de m'aventurer dans des trucs un peu...
Non, c'est très très clair.
Ok.
Je comprends tout ce que tu dis et même si ça ne l'était pas, ce serait très bien. Il n'y a pas de censure à avoir. Vraiment. Et si tu penses que tu serais plus confortable sans le micro, on peut couper le micro aussi.
Honnêtement, j'étais même pas consciente du micro, donc ça me va tout à fait.
Très bien.
Non, ce que je voulais dire par ne pas me comprendre, c'est pas du tout ta compréhension à toi que je remets en jeu, c'est plutôt comme, c'est des questions que je me suis pas spécialement posées à moi-même, ben je fais la démarche vraiment live, quoi. C'est la première fois que je réponds à ces questions-là, donc du coup, pardonne-moi si je prends un peu plus de temps.
Il n'y a pas de temporalité prédéterminée pour chaque question. Je comprends que ça t'interroge le cadre.
Mm-hmm.
Je comprends que...
Mais je comprends que tu aies choisi le lit comme cadre important. Donc,
Est-ce que tu peux définir la couleur de ta peau?
Si je devais dire quelque chose... Ça m'arrive vraiment de me regarder dans le miroir et me dire « Putain, en fait, je suis vraiment jaune. » je me dis, mais en fait, non, je suis pas jaune, c'est plutôt miel. Miel, mais en même temps, je trouve ça un peu trop tiré par les cheveux, un peu trop romantique à mon goût. Je me considère comme quelqu'un de romantique, mais j'ai beaucoup de mal à l'accepter. Du coup, j'aime pas trop me regarder dans le miroir et me dire, waouh, ta peau est couleur miel. Mais c'est dû à une bande dessinée que j'ai lue quand j'étais plus jeune, qui s'appelle Couleur de peau, miel. Je ne sais pas si ça te parle.
Si, j'en ai entendu parler. Et j'ai entendu parler du film, en fait.
Oui, oui. Bah, c'est la bande dessinée qui a été adaptée en film.
Est-ce que tu peux me raconter un peu l'histoire?
Alors, ça remonte un peu à loin, mais en gros, c'est un enfant coréen, adopté coréen. Donc il arrive dans une famille où il y a d'autres enfants blancs, biologiques en fait. Et je ne sais plus dans quelles circonstances il a été adopté ni pourquoi, mais ce n'est pas tellement ça le débat. Le débat c'est plutôt de comment lui il a trouvé sa place dans sa famille avec d'autres enfants qui n'étaient pas adoptés, qui étaient blancs, qui étaient biologiques. Et ça c'est la partie de l'histoire qui pour le coup a le plus résonné avec moi parce que j'étais un peu dans la même situation. Et puis du coup, de devoir trouver lui-même, en fait, il essaie de trouver lui-même ses attaches en Corée et en Asie, plus largement, parce que lui, en grandissant, il se considérait japonais. Parce que de toute façon, ses parents ne voyaient pas, ne le traitaient pas différemment des autres enfants, et ne l'ont jamais dit, toi tu es coréen d'origine, et eux, ils sont, je ne sais plus, français d'origine. Et donc lui, il estimait qu'il était japonais en fait. Il était passionné par la culture japonaise, il faisait des arts martiaux. Et donc il s'est identifié à complètement une autre culture du fait qu'on lui ait pas, on lui en ait assigné aucune. En fait. Juste, il savait qu'il était asiatique et qu'il était différent, mais donc du coup ça lui permettait d'être n'importe quel asiatique. Ce qui était assez pas mal du coup. Mais c'est surtout le fait qu'il ait dû chercher lui-même en fait. Il a dû chercher lui-même ces réponses-là, savoir quel asiatique il était, savoir de quel pays il venait vraiment et ce qui se passait dans ce pays-là et pourquoi il était arrivé ici. Tout ça, j'ai eu l'impression, en tout cas moi, en lisant la BD, que c'est des choses auxquelles il a dû répondre tout seul. Et qu'en même temps, il ne pouvait pas en vouloir à ses parents, parce que qu'est-ce que ses parents savent de la Corée finalement? Donc c'est de nouveau ambivalent dans le sens, on ne peut pas tellement leur en vouloir, mais on aurait quand même aimé qu'ils sachent, quoi. C'était ça qui était intéressant dans l'histoire.
Tu te sens seule dans ce chemin-là, toi?
Ouais, c'est arrivé. C'est arrivé pas mal de fois où je me suis dit... Ou soit je rencontrais des gens qui me disaient « Mais je vois pas ta couleur, je vois pas ta race, pour moi, t'es comme tout le monde. » Et donc du coup, ben, moi ça décrédibilisait plein de problèmes que je rencontrais dans la vie de tous les jours. Et d'un autre côté, j'avais envie de leur dire bah, merci de ne pas me considérer comme différente. Mais je suis différente en fait. Et vous ne le voyez pas spécialement, mais je suis différente. Et donc du coup, ces problèmes que je rencontre dans la vie de tous les jours, ben, je dois y trouver des solutions. Et c'est sympa de votre part de me considérer comme vous. Mais il y en a qui ont besoin d'un petit peu plus de coup de main du fait que la société est comme elle est, quoi.
Au travail, tu es la seule personne racisée?
Non, il y a une autre jeune fille asiatique, mais elle de Philippines. Et qui est avec toute sa famille, ici en Belgique, ils vivent dans un cocon familial très resserré. Et ils fréquentent que des Philippins, ils sortent qu'avec contre-Philippins. C'est un cadre complètement différent du mien. Et il y a aussi un jeune garçon qui s'appelle Romal, qui vient d'Afghanistan, qui a fui la guerre et qui a laissé toute sa famille là-bas. Enfin, qui a laissé, il l'a pas décidé, mais dont la famille se trouve encore là-bas. Et que je tiens fort sous ma protection, que j'ai vraiment envie de protéger, justement parce que lui, dans les faits, il est réellement tout seul pour ce combat-là. Il est réellement tout seul et donc du coup, il y a tellement de problèmes de la vie de tous les jours que moi, je ne voyais pas spécialement avant, ne serait-ce que trouver un logement ou trouver un travail, qui se sont manifestés quand je l'ai rencontré, que j'ai remarqué quand je l'ai rencontré. Tout bêtement, je lui ai demandé, un peu par courtoisie et par ignorance, je lui ai dit « Sinon, tu te plais bien ici? Qu'est-ce que tu préfères, la Belgique ou l'Afghanistan ?» Et il m'a fait « Ben tu sais, moi je préfère ici, chez moi il y a la guerre, tu vois. » Et ça m'a un peu calmée, quoi. Je me suis dit « Merde, c'est vraiment trop con comme question de demander ce que tu préfères. » Ben ouais, je préfère où il n'y a pas la guerre, forcément. Et ça montre justement qu'on doit... Même en tant que personne racisée, on doit faire attention à ce qu'on dit et on doit porter plus attention aux gens qui ont encore plus de problèmes discriminatoires que nous. Et je me dis que si en tant que personne racisée, j'ai eu cette intuition-là, ben, il est temps que les personnes blanches et non racisées l'aient aussi, quoi, parce que ça saute vraiment aux yeux en fait. Comment ça ne peut pas sauter aux yeux? Je sais pas trop, mais bon, je me suis un peu éloignée du sujet. Et du coup, à mon travail, ouais, c'est les deux seules personnes racisées avec lesquelles je travaille de manière proche. Et sinon, en cuisine, vu que je travaille dans un restaurant, en cuisine, forcément, il y a un gros turnover de personnes qui s'en vont et qui viennent, et un gros pourcentage de personnes racisées, que ce soit en plonge ou à des postes plus, plus élevés. Mais dans un restaurant et dans une cuisine, la hiérarchie est tellement bien marquée que de nouveau ça saute aux yeux que c'est toujours les mêmes qui sont en plonge et c'est toujours les mêmes qui sont chefs. Et... c'est vraiment impossible à ne pas voir quoi. Franchement, j'invite tout le monde à venir travailler un jour en cuisine. Parce que... mais en même temps, c'est un lieu où, qui attire autant les personnes blanches que les personnes de couleur. Et c'est un lieu où la gastronomie, c'est une discipline où justement où on peut se rencontrer et où on peut créer des nouvelles. On peut fusionner nos cultures.
Tu travailles à quel poste ?
Moi, je travaille en salle en tant que chef de rang. Donc plus directement le contact client, la vente, les recommandations et le suivi du service. Quoi. Donc je ne suis pas en bas de la hiérarchie. Mon ami Romal, lui par contre, est commis de salle. Donc lui, c'est le poste le plus bas en salle. Et c'est là que je vis de nouveau. Parce qu'il ne parle pas bien français, il n'a pas accès au poste de chef de rang. C'est là que je vis de nouveau, ça saute aux yeux. Et le truc, c'est que dans le contact client, le racisme, il est partout. Donc ça m'est déjà arrivé qu'on me dise, en me regardant, mais en ne s'adressant pas à moi, que oh, elle serait parfaite pour mon fils, elle se trouve pas. Et que les gens attendent, en tant que restaurant, et en tant que politesse, on doit dire merci en fait pour le compliment, merci de me considérer assez bien pour votre fils. Parce que sinon, je sais pas ce que. J'avais aucune idée d'où ma vie sentimentale allait aller, vraiment merci. Et donc on est toujours un peu forcé en tant que représentant au service client, d'être agréable, d'être reconnaissant, d'être poli. Mais il y a des trucs comme ça qui passent pas. Et c'est faussement positif. C'est de plus en plus, c'est des commentaires faussement positifs parce que les gens ne peuvent plus se permettre à table de faire des remarques ouvertement racistes, mais c'est encore plus insidieux maintenant, du coup. Les gens se donnent bonne conscience en se disant que... ils imitent plus des accents à table pour faire des blagues, mais du coup ils ont des comportements inconscients et faussement positifs qui sont encore plus difficiles à désamorcer et à dénoncer pour nous, de devoir dénoncer à ma manager que cette table-là a des pratiques racistes envers nous et qui est ma manager qui est blanche, qui est une femme blanche, devoir lui expliquer en quoi c'est raciste. Et elle qui me répond, ils t'ont juste fait un compliment, ils t'ont juste dit que t'étais jolie. Et donc du coup, ouais, c'est un combat de tous les jours, et c'est un combat qui est très silencieux, mais qui est en même temps épuisant. Quoi. Parce qu'encore, si quelqu'un disait, m'avait parlé dans un accent asiatique, parce que clairement l'accent asiatique n'existe pas, mais il y a encore quelques années, ça, on me le faisait. On s'adressait à moi en faisant un accent et maintenant c'est vous parlez bien français pour une personne comme vous, donc pour eux c'est une évolution, vraiment pour eux ils ont l'impression que c'est une évolution et pour moi c'est encore plus difficile de dénoncer.
Est-ce qu'il t'arrive de parler de racisme avec ta famille?
Non, enfin, ça m'arrive de parler de racisme en surface, quoi. Vraiment, quand il y a eu des attaques racistes envers la communauté asiatique ou envers les personnes d'ethnie asiatique à cause du coronavirus, on en a parlé vite fait. Mais mon père m'a vite fait demandé si j'avais pas eu de remarques par rapport à ça. Non, j'ai pas eu de remarques par rapport au coronavirus, pas encore. Au moment où il me l'a demandé, j'en avais pas eu, mais tous les jours j'ai d'autres remarques par contre. celles-là, on les voit moins, mais... Donc en famille, non, on n'en parle pas trop. Et puis le truc, c'est que dans ma famille, le racisme est dans ma famille, bien qu'on ait des enfants adoptés. En fait, on est une famille très, 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 très recomposée. Et donc il y a eu des enfants adoptés du Vietnam, dont moi et mon frère. Il y a eu des enfants adoptés de Haïti. Et il y a des enfants blancs, biologiques. Et donc on est tous demi-frères et sœurs. Pour moi, ça ne faisait pas de différence, on était tous frères et sœurs, pour le coup. Et on se voyait un week-end sur deux, tous ensemble. Et l'autre week-end, on était avec d'autres enfants. Mais au final, on les connaissait tous, quoi. Et donc, il y a du racisme au sein de la famille. Parce que j'ai souvent eu l'impression qu'en tant qu'enfant adopté, je devais faire beaucoup plus pour me faire accepter dans cette famille que l'enfant blanc biologique. Mes grands-parents, surtout au niveau de mes grands-parents, qui eux avaient d'un côté mes cousins qui étaient blancs, catholiques, un peu tout l'archétype de ce qu'ils voulaient comme enfants, et nous qui étions adoptés du Vietnam, et ma mère qui avait adopté des enfants d'Haïti en plus, donc elle commençait à vraiment dépasser les bornes, quoi. Hein, et on devait. Ouais, on a toujours eu le sentiment qu'on était moins bien qu'eux, quoi. Au sein de notre propre famille, au sein des réunions de Noël.
Est-ce que tu en as parlé avec tes frères et sœurs? Je ne sais pas si ce sont que des sœurs ou que des frères, mais tes frères et sœurs haïtiens, haïtiennes, d'origine haïtienne. Est-ce qu'ensemble, vous avez parlé de cette condition d'adopter?
J'en ai pas vraiment eu l'occasion parce que je suis plus en contact avec eux depuis mes 7 ans. Et donc à 7 ans, on n'a pas encore ce genre de conversation. Même si ça se ressent, hein, on n'est pas encore capable d'en parler. Surtout qu'eux étaient plus jeunes que moi. Donc j'ai plus de contact avec eux depuis mes 7 ans. Et donc non, je pense que là... Mais j'ai des vagues souvenirs. De mes grands-parents ou de mes parents qui étaient ouvertement racistes sans s'en rendre compte, dans le sens où ma grand-mère appelait mon petit frère haïtien affectueusement, elle l'appelait Bamboula, tu vois. Et bien pour elle, c'était vraiment une marque d'affection. Ouais, c'était vraiment une marque d'affection. Je me souviens aussi très bien d'une fête à l'école, une fancy fair, où ils nous avaient fait monter sur scène, mon frère vietnamien, moi, mes deux frères et sœurs haïtiens sur scène, nous affublés d'un chapeau pointu, mes frères et sœurs haïtiens d'un pagne, et où ils ont pris... Cette photo, elle est parue dans l'Avenir, hein, l'Avenir d'ailleurs. Ils ont pris une photo de nous, ils l'ont fait paraître dans un mur et ils ont vanté nos parents, notre famille comme étant vraiment une famille tellement humanitaire, tellement de bonté, tellement ouverte d'esprit finalement. Et nous on avait cette photo dans le journal, quoi. Et ma grand-mère a gardé cette photo épinglée dans sa chambre ou sous son lit pendant très très longtemps, quoi. Maintenant elle a déménagé, j'espère qu'elle l'a pas remise sur son mur, mais... Et donc nous, pour nous, c'était on est important, merci. Merci de nous prendre en photo, merci de nous mettre dans le journal. Et puis quand j'ai vu cette photo plus tard, c'est honteux, quoi. Comment vous avez pu laisser se passer une chose pareille? Et donc non, le racisme avec ma famille, c'est un sujet assez délicat parce que vraiment pour eux, ils ont fait tout ce qu'il y avait de bon à faire, quoi. Ils ont adopté des enfants de couleur et ils voient pas ce qu'ils pourraient faire plus, quoi. C'est vraiment l'acte de bonté ultime d'adopter, non? Et quand je rencontre, par contre, quand je rencontre d'autres gens et que je leur parle du fait que je suis adoptée, c'est vraiment waouh, tes parents t'ont adoptée, vraiment, ouais, de nouveau, quelle bonté, quel humanitarisme. Et je leur dis, oui, mais il y a aussi du racisme de la part des parents, il y a aussi du racisme de la part des grands-parents, de la famille. Et c'est pour ça que l'adoption, oui, c'est beau, mais il faut avoir un esprit critique dessus. Il ne faut pas juste dire... Enfin, c'est toujours noir ou blanc avec la... Enfin, noir ou blanc, je parle de contraste et de nuance. pas de couleur de peau, mais dans le sens où les gens sont soit désolés que tu aies été adoptée, ou soit tu es censée être la personne la plus chanceuse du monde et dire merci.
Oui, oui. C'est assez binaire.
Mmh. Ouais. Et donc, du coup, qu'est-ce que je disais ? Non, on ne parle pas beaucoup de racisme dans ma famille.
Et avec ton frère, est-ce que tu le vois encore ? Est-ce que tu parles d'adoption avec lui ?
En fait, mon frère, bon, ça fait 2 ans qu'on est plus en contact. Mais au-delà de ça, ça a toujours été très compliqué d'avoir ce genre de conversation avec lui. Du fait qu'à sa naissance, à Hanoï, il y a eu des complications pendant sa naissance. Ils l'ont sorti avec des forceps. Son cerveau a été endommagé. Et donc, il a un certain... Il n'est pas complètement inapte à avoir ce genre de conversation, mais c'est très compliqué. En tout cas, tout ce qui est abstrait, les phénomènes sociologiques, le concept, les concepts, ne serait-ce que le concept d'être racisé ou pas, c'est vrai que je ne lui ai pas posé la question, en fait. Hein, mais j'ai toujours assumé que ce serait compliqué pour lui de comprendre. Et puis, je me suis toujours dit que s'il n'en était pas conscient, c'était peut-être mieux pour lui, finalement. Parce que lui, vraiment, il n'était pas... Il n'avait pas du tout de mal-être par rapport au fait que, en tout cas, en grandissant, quand on était enfant, il ne sentait pas du tout ce mal-être du fait qu'il était un enfant adopté ou de couleur. Et je pense que c'est juste parce que le fait d'être un enfant handicapé a pris le dessus, quoi, finalement. Lui, ce qu'il définissait, c'était qu'il était handicapé, et nous, ce qu'il nous définissait, c'était qu'on était racisés. Et donc lui, il ne s'était pas tellement posé la question du racisme, parce qu'il avait cette autre tare et cette autre étiquette sur lui qu'il avait à démentir. Et je me retrouve un peu dans la même situation maintenant où on me pose des questions sur le racisme et sur ma situation, sur mon ressenti. Et où en ce moment particulièrement je me sens affublée d'une autre tare et d'une autre étiquette à démentir qui est plus en rapport avec la femme, la culture du viol, la femme, les violences faites aux femmes, au-delà de ma couleur de peau en fait.
Si je comprends bien, plusieurs personnes de ton entourage, qu'il soit professionnel, familial, amical, t'enjoignent à te défendre comme femme, c'est ça ? C'est comme si chez toi, on voyait davantage ta part, enfin la part du genre, quoi. Mm-hmm. On te considère avant tout comme une femme et moins comme une personne racisée. Il n'y a pas cette intersection.
Alors,
entre les deux,
pour le coup, c'est.
Je suis une femme et je suis une femme racisée.
Oui,
aussi.
C'est ça. Mais c'est surtout moi qui m'inflige ça, c'est pas tellement le regard des autres personnes et de mon entourage, c'est moi parce que en tant que femme, strictement, en tant que femme, on a eu des problèmes de femmes, j'ai eu des problèmes de femmes. Et du coup, ça a pris le dessus sur ma race, sur ma nature racisée. Et en ce moment, c'est surtout à ma part de femme et à ma part de féminité que je pense et que j'essaie de rétablir. Et du coup, c'est vrai que j'ai complètement laissé la question de mon ethnicité, mon appartenance à une communauté ou ma race sur le côté. Et je l'ai décrédibilisé moi-même, en fait. Et maintenant que tu me dis, oui, je suis une personne, je suis une femme racisée. Et c'est encore...
Ça fait partie de ton identité de femme.
Ça fait partie de mon identité de femme. Et pour moi, c'est un truc encore... c'est un embranchement de la recherche que je dois continuer à effectuer pour moi-même. Mais en ce moment, je suis toujours au niveau femme, quoi. Une femme racisée, c'est l'étape d'après, j'ai l'impression. Ouais, du coup, ça m'inquiétait un peu de venir ici et de... et que cette condition de femme prenne le dessus dans mon discours juste de femme, parce que effectivement je voudrais pouvoir me présenter comme femme racisée.
Et comment tu te définis, comment tu te présentes justement aujourd'hui là, qu'est-ce que tu pourrais me dire à moi alors que je ne te connais pas? Qu'est-ce que tu voudrais dire pour te présenter?
Que je suis une enfant adoptée, que mais non, c'est pas ça que je veux dire. En vrai, là pour le moment, je sais pas trop comment me présenter, et c'est dû à des phénomènes de dissociation. Dissociations traumatiques qui sont survenues, dont j'ai pris conscience très récemment. Et donc du coup, pour le moment, je ne sais pas comment me présenter. Et donc du coup, j'essaie d'attaquer un peu tous les angles, tu vois, pour essayer de me redéfinir. Et c'est vrai qu'en essayant de me redéfinir, je pense que je dois d'abord redéfinir ma condition de femme avant de pouvoir accéder au combat supérieur qui est de m'affirmer en tant que femme racisée. Et pour le moment, en fait, c'est peut-être un peu trop pour moi, en fait. Il y a des jours où je devrais pas... où j'ai envie de me dire, ce combat-là, j'ai envie de le laisser un peu de côté et juste me dire que je peux récupérer ma condition de femme. Rien que ça, ce serait déjà bien, en fait.
Est-ce que tu veux qu'on fasse une pause?
Ouais, ce serait bien.
Ouais.